Nous avons reçu une signification sur Internet. Quelqu'un pose une question à propos des conversions. Il pose la question, comment se fait-il qu'il y a des conversions qui sont valables, d'autres qui ne sont pas valables? Quels sont les critères? Et comment se fait-il que lorsqu'on trempe dans un mikvé, devant trois rabbanim, devant trois juges d'un tribunal rabbinique, alors on fait un tour de passe-passe extraordinaire comme ça, parce qu'après tout, qu'est-ce qui se passe? Il y avait trois êtres humains ici, et un bain, hein, donc de l'H2O, c'est de l'eau, et la personne rentre en tant que non-juive, elle ressort avec une âme différente. Comment une action physique de trempette dans de l'eau, face à trois rabbins, peut-elle transformer une réalité métaphysique? On change d'âme, on fait un tour de passe-passe. Est-ce que tout le monde peut se convertir? Pourquoi est-ce aussi difficile de se convertir? Pourquoi les conversions libérales n'ont-elles aucune valeur? Et non seulement les libérales rajoutaient, mais beaucoup d'autres qui ne sont même pas libérales, mais n'ont aucune valeur aussi. Permettez-moi d'adresser Anonyme pour des raisons familiales et personnelles, tout à fait normales. Ok, alors cher monsieur Anonyme, en gros, lorsque Dieu donne la Torah, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la Torah au Mont Sinaï. Les anges disent à Dieu, ne la donne pas. Comment tu es un joyau qui est ton occupation quotidienne, Dieu, qui est une chose qui est divine, tu la donnes aux hommes? Il est marqué que Dieu a jeté la vérité sur terre et qu'elle poussera de la terre. Eretz, emet, mais eretz titzmach. La vérité pousse de la terre. C'est-à-dire que Dieu a donné sa Torah aux hommes, aux chachamim, aux sages des générations, et les a fait, eux, les, comment dire cela, les, non seulement les garants, mais ceux qui vont fixer quelles sont les clauses de cette Torah. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On a reçu des clauses de Dieu, comment on doit gérer cette Torah, mais nous la gérons. À un point tel que Talmud nous raconte que s'il y a un débat entre Dieu et les Chachamim, ce sont les Chachamim qui ont raison. Il y a une Gemara très connue dans Baba Metzia. Il y a eu un débat à propos d'une, entre deux rabbins, à propos d'un cas, peu importe quel cas, de tout matara, de pureté d'impureté d'un objet, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit l'objet il est impur, Rabbi Eliezer dit non, il est pur. Et les deux discutent. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que la rivière qui est là s'arrête, elle n'aura pas dans l'autre sens. Et aussi que la rivière s'arrête, elle n'aura pas dans l'autre sens. Rabbi Yoshua lui répond, on n'a même pas de preuve des rivières. Rabbi Eliezer rétorque, si maintenant j'ai raison que ce carubé, c'est un arbre, se déracine maintenant et se réenracine à quelques centaines de mètres d'ici. Et voici que le carubé se déracine, et hop, s'il part en courant, il va s'enraciner là-bas. Rabbi Yoshua lui répond, on n'a même pas des preuves des carubiers. Rabbi Eliezer rétorque, si j'ai raison que les murs du temple, du Beth Amidrash, se baissent, et voici que les murs se mettent à baisser. Rabbi Yoshua leur dit, restez sur place, c'est pas votre affaire, les Chachamim sont en train de discuter, c'est pas vos oignons. Et la Gemara raconte que les murs sont restés comme ça, ne sont pas remontés pour l'honneur de Rabbi Eliezer, ne sont pas descendus pour l'honneur de Rabbi Yoshua, ils sont restés tordus jusqu'à ce jour-là. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison qu'une voix sort du ciel et qu'ils disent Rabbi Eliezer a raison. Une voix sort du ciel et dit Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua répond, on n'amène pas des preuves de voix du ciel. Et là, la halakha est tranchée comme Rabbi Yoshua. La Gemara pose la question, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Rabbi Yoshua a tranché comme ça? Dieu a souri et Dieu a dit, Nitzruni banai, Nitzruni banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Alors, c'est très joliment dit, c'est très midrashiquement dit, ça veut dire que, comme le Gaon du Vilna explique cela, Dieu a donné la goutte de sperme, c'est ce qu'il a donné. Et la matrice, c'est Am Israël. Et nous, on va prendre cette goutte de sperme, on va la travailler, on va en faire la Torah de Dieu. Mais nous faisons, c'est une notion dure à comprendre, il est marqué souvent dans le Zohar que Dieu et la Torah et Am Israël font un. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement devant la caméra, mais sur des sources extrêmement profondes. Si moi je déplace maintenant le verre, qui a déplacé le verre? Qu'est-ce que tu dis? Moi. C'est qui moi? Qui suis-je? Comme question. Qui suis-je? Alors moi, c'est certainement pas mon steak. Mon corps, c'est un steak. Je ne suis pas du steak. J'ai une main, mais je ne suis pas une main. Moi, c'est moi. Moi, c'est une chose impalpable, qui réfléchit, qui pense, qui a envie, qui a des volontés, etc. Mais ce n'est pas un corps. J'ai un corps. C'est des choses basiques de la Torah. Alors, je pose la question maintenant, qui a bougé le verre? C'est moi?
Ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps.
Ce qu'il y a à l'intérieur, mon vrai moi, ne peut pas bouger. C'est une chose impalpable, ne peut pas tenir le verre. Alors, qui a bougé le verre? Ma main. Mais alors, ma main, c'est moi ou c'est pas moi? Si maintenant je viens avec ma main, je donne une gifle à quelqu'un. Il va me dire, ta main m'a donné une gifle. Ou lui dire, excuse-moi, c'est ma main qui a donné une gifle. Ben, pourquoi tu me donnes une... Il me rend une gifle à moi, d'accord? Sur ma joue. Pourquoi tu donnes une gifle à ma joue? C'est ma main qui a donné une... Tu rigoles avec moi, c'est toi. Alors nous verrons que, bien que moi, c'est une chose différente de ma main. Moi, on va dire, c'est mon âme, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? On va peut-être mieux expliquer c'est quoi, parce que je veux pour la suite. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais mon moi s'exprime par ma volonté. Ce que je sais de moi-même, c'est ma volonté. C'est marqué dans le livre de Rabbi Yehuda Hassid. Si tu veux honorer quelqu'un, tu veux respecter quelqu'un, comment tu fais? Tu veux le respecter parce qu'il est intelligent, tu veux le respecter parce qu'il est beau, tu veux le respecter parce qu'il est riche, tu veux le respecter parce qu'il est bien habillé, parce qu'il a le sens de l'humour, parce que n'importe quoi. Rabbi Yehuda Hassid dit non, tu ne le respectes pas lui. Tu respectes son intelligence, mais c'est pas lui l'intelligence, c'est une chose qu'il a. Tu ôtes l'intelligence à quelqu'un, il n'est plus là, il est là. Il est là sans son intelligence. Quelqu'un qui tout d'un coup il a eu un choc émotif, il est devenu bête. C'est plus lui. C'est lui. C'est lui bête. Il y a lui intelligent, il y a lui bête, mais c'est lui. Quelqu'un a eu Chas Shalom, il est défiguré. C'est plus lui, c'est lui. Alors tu l'honorais parce qu'il était beau. Si tu l'honores parce qu'il est beau, c'est pas lui que tu honores, c'est sa beauté. Son sens de l'humour, son intelligence, sa richesse, ses habits, c'est pas lui. C'est qui? Lui. Rabbi Yehuda Hassid répond, Retsono shel adam u kevodo, sa volonté. Tu veux dire que la chose qui est vraiment lui, c'est sa volonté. Et quand je dis c'est vraiment lui, c'est pas tout à fait vrai, parce que lui on sait pas ce que c'est, mais la chose qui se dégage de lui, l'expression première, la plus profonde, la plus intime à lui, ce que je peux savoir de lui, c'est sa volonté. Maintenant, la volonté, qu'est-ce que c'est? C'est même pas dans la pensée, c'est avant la pensée. J'ai une volonté de boire, j'ai soif. Est-ce que c'est de la pensée? C'est un sentiment, c'est quelque chose qui vient avant la pensée. La pensée va dire tu as soif, donc il faut que tu bois, donc il faut que tu donnes de la main, mettre de l'eau et que tu boives. Il y a toute une... La pensée, elle va venir après la volonté. La volonté, c'est la motivation première qui va provoquer la pensée, qui va guider la pensée, mais ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est déjà une formulation des mots de la volonté. Une volonté, elle n'a pas de mots. Une volonté, c'est quelque chose de... qui est avant les mots. Des fois, quelqu'un est très amoureux, il veut faire un discours d'amour à sa femme, elle lui dit « je t'aime », d'accord, mais il dit « mais les mots ne suffisent pas pour dire ce que j'éprouve ». Parce que le sentiment, c'est une chose, les mots, c'est une traduction déjà. De même, chez nous, la chose profonde, c'est la volonté. La traduction de la volonté, elle passe dans la pensée. Et la pensée, elle va agir. C'est comme s'il y a trois choses, il y a quelqu'un, il y a un ordinateur, et il y a une grue. Maintenant, avec la grue, il veut soulever. Alors, qu'est-ce qu'il vient? Il vient derrière l'ordinateur, il tape. Ça, c'est la volonté. C'est lui qui veut. L'ordinateur, c'est le cerveau. C'est la pensée. Alors, non, c'est rien, c'est une machine. Une machine, un ordinateur. L'ordinateur, maintenant, va ordonner la grue, soulève-toi, ramasse le verre. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a en fait l'unité de trois choses. Il y a moi, c'est ma volonté, qui s'unit, qui va provoquer, qui va guider ma pensée, et ma pensée va guider ma main. Donc c'est pas que ma main c'est moi. Moi c'est ma volonté. Mais ma main fait un avec moi. Un point tel que si je donne une gifle à quelqu'un, elle va dire c'est toi. Il a raison, parce que la gifle n'est pas partie toute seule. La grue elle donne pas toute seule. Ce qui est valable ici, en tant, dans l'exemple que j'ai pris de l'être humain, est valable aussi à propos de Dieu. Dieu on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais il va dévoiler sa volonté. Il a une volonté. Il a une volonté. Elle se dévoile, elle se traduit, elle s'exprime dans la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la traduction de la volonté de Dieu. Dieu, on ne le connaît pas, il est là-haut. Il va traduire sa volonté dans une pensée que je intelligible. parce qu'il parle dans la Torah le langage qu'il y a ici. C'est ça qu'il a pris la Torah qui était très haute, qui était la Torah des anges, la Torah de Dieu. Il la met sur terre. C'est-à-dire, je saisis ce qu'il me dit. Il me dit, mets des tefs, il me dit, mange cachère, des choses que je saisis dans mon monde à moi. Alors que la Torah de Dieu, au niveau de Dieu, elle parle de choses tout à fait insaisissables, imperceptibles, de sphères, de lumière, de choses qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc Dieu, c'est la volonté. La traduction de sa volonté, c'est la Torah. C'est la pensée. Et la réalisation de la pensée, c'est Am Israël. Quand nous faisons ce qui est marqué dans la Torah, je deviens la main. Je deviens la main de Dieu. Je fais un avec Dieu. Ça veut dire que le peuple juif, quand il fait la Torah, il fait un avec Dieu. Un point tel qu'il est marqué dans le Talmud, sur ses Bava Batra, page 75b, « Adi Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. » Yudke Bavke, comment vas-tu? Ah Elohim, Shakai, j'appelle des gens au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un truc qui s'est pris pour un Dieu à 2000 ans, là. D'accord? Et on ne veut pas un truc pareil. Alors, de quoi tu me parles ici? Ça veut dire qu'à la fin des temps, où chaque être humain tzaddik arrivera à être pleinement, totalement la réalisation du désir de Dieu, alors il est comme maman. Quand maman fait ce que je veux, c'est moi, fais un avec moi. C'est un des secrets que donne la Torah, que Israël et la Torah et Dieu font un. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, quand il fait la Torah, c'est une partie divine. Il a une puissance divine. Et chaque fois que nous faisons un acte de Torah, ce n'est pas un acte matériel et c'est tout. Je mets les tefillines, je porte des fils. C'est quoi? Un habit avec des fils. Et alors? Tous ces actes-là, tous les actes qui sont commandés par la Torah, ont une portée métaphysique. C'est ça le grand secret de la Torah. Que quand tu fais un acte physique, ça a une incidence métaphysique simultanée, au même moment. C'est pour ça que nous avons des mitzvot. Dieu ne s'intéresse pas à nous qu'on porte des fils. Ça intéresse qu'on porte des fils dans la mesure où lui a dit ça, et quand je fais ça, donc j'agis dans, je réalise sa volonté, c'est-à-dire je réalise une chose qui est éternelle, qui a une incidence dans l'éternité, dans la divinité. Dans la divinité, nous agissons dans la divinité. C'est pour cela que lorsque nous faisons, pour revenir à ce que nous parlons de conversion, peut-être je vous donne un exemple auparavant. On va dire maintenant, un cas très courant, Baruch HaShem, les kiddushin, le mariage. Pour marier une femme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un mariage? Il y a un homme, il y a une femme, ils s'aiment, ils veulent devenir homme et femme. Qu'est-ce qui se passe entre avant mariage et entre après mariage? S'ils veulent vivre ensemble, qu'ils vivent ensemble. Où est le problème? Qu'ils aillent à la mairie, ils disent voilà, on est mariés. Une femme non mariée qui a une relation avec un autre, si c'est fait dans... c'est pas permis de le faire, mais en tout cas, elle n'est pas considérée comme adultère. Par contre, une fois qu'elle est mariée juivement sous le dit nuptial, elle est adultère. Du temps, il fallait aller l'étrangler, d'accord? C'est passible de mort, s'il y avait deux témoins, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après? Il y a eu un acte matériel qui a eu une incidence spirituelle, que les deux âmes se sont liées. Plus profondément, c'est marqué qu'il y a une partie de l'âme de l'homme qui rentre dans la femme. Une partie de l'âme de l'homme qui rentre dans la femme. Et pas l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel acte a pu faire cela? Alors d'abord, avant d'expliquer comment, je vois déjà, c'est ça le principe, quand tu fais un acte dans la matière, ça a une incidence directement dans la métaphysique. La physique agit sur la métaphysique. D'ailleurs, la médecine reconnaît cela. La médecine dit que la majorité des maladies aujourd'hui sont psychosomatiques, c'est-à-dire qu'elles ont une source dans le psycho. Psycho, ça vient du grec psyché, âme, qui a une incidence dans le soma, dans le physique. Paradoxe terrible, la médecine ne va soigner que le physique. Mais c'est que les symptômes, la cause est dans le psyché, elle ne connaît pas le psyché. La Torah dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout, il y a un rapport entre les deux. Et lorsque tu agis sur le physique, c'est aussi l'incidence sur le psyché. C'est interactif. L'interactivité avec Dieu. Ça, c'est la Torah. C'est bien, Torah, c'est le mode d'emploi. La Torah, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi d'interactivité entre la divinité et l'être. Quand tu fais comme ça, ça agit comme ça. Quand tu fais pas comme ça, ça n'agit pas comme ça. C'est exactement ça ce qu'appelle le mode d'emploi, la Torah. Quand on se marie, quand il met la bague à la femme, il lui dit, Ariat Mekoudé, je te betabadzo, qui est à ton chef d'Israël, tu m'es sanctifié par cette bague, elle sait qu'elle reçoit cette bague pour des kiddushin, elle devient sa femme, il y a ce passage d'âme qui a lieu. Mais à condition qu'il y ait deux témoins cachers. Deux témoins cachers, ça veut dire deux personnes juives, qui ne sont pas de la famille des deux, ni parentés entre eux, ni parentés avec les mariés, et qu'ils soient surtout cachères. Des gens qui font Shabbat, des gens qui n'ont pas volé de leur vie, des gens qui soient cachères. Si les deux témoins ne sont pas hyper cachères, bien que l'acte a été fait, il manque quelque chose dans l'acte, parce que ce sont les conditions qu'a mis sur place la Torah, vu qu'on a donné une force, même pas un chacham, un juif qui a un statut métaphysique de juif. Si il a fait des péchés, il est déjà pas apte à avoir ce statut-là, mais s'il a un statut de témoin cachère, par le fait qu'il regarde deux personnes simultanément, regarde cet acte être fait, alors le passage métaphysique aura lieu. Sinon, ça n'a pas lieu. Comment ça se fait? Dieu a donné dans les lois du mode d'emploi. Sache, quand tu fais un acte physique X, c'est un incidence métaphysique X'. À condition qu'il y ait ici les deux témoins. Donc, voyons ici un cas où le témoignage de personnes aptes à être témoins, il est nécessaire. Sans cela, le mariage ne vaut absolument rien. Je répète, absolument rien. Bien que l'acte ait été fait, il manque dans l'acte. Au niveau de la conversion, c'est très simple. Pour que l'acte de conversion soit valable, il faut trois choses. Il faut que le candidat à la conversion soit sincère. C'est-à-dire, quand il va rentrer dans le mikvé, il doit prendre sur lui de façon sincère de respecter le joug des mitzvot et prendre sur lui le joug de la royauté céleste. Je prends sur moi que Dieu existe, que je dois lui obéir. Et je prends sur moi de faire les mitzvot de la Torah. Première chose. Deuxième chose, il faut un mikvé kasher. Ce n'est pas une baignoire, c'est de l'eau de pluie qui n'a pas eu de contact avec, qui n'a pas été puisée. D'après les lois, extrêmement compliquées de mikvé. Troisièmement, il faut qu'il y ait un tribunal rabbinique de trois personnes, des trois témoins kasher. Trois témoins kasher. C'est comme ça que ça fonctionne d'après les lois transmises par Akush Borokhou de comment a lieu l'opération métaphysique. De nouveau par le même principe, en faisant une certaine action physique dans le cadre physique qui est institué par Dieu, ça a une incidence métaphysique comme toute la Torah. Pourquoi quand je mange du porc, ça bouche mon âme. Où est le rapport? Le porc, il est très bien, il n'y a aucun problème là-dedans. Pourquoi si je cuis de la viande et du lait ensemble, je fais un article. Pas j'ai mangé, même j'ai cuit ensemble, c'est interdit par la Torah. Si pour moi c'est Shabbat, j'allume la lumière. Toutes les lois de la Torah ont toujours une incidence métaphysique et non physique. C'est une erreur de dire qu'on n'allume pas la lumière Shabbat parce que c'est une question de repos, c'est pas fatigant d'allumer la lumière, c'est une erreur de dire qu'on mange pas du porc parce que ce n'est pas sain. Le Talmud dit que c'est très sain, mange du porc, aucun problème. Une erreur de dire qu'on ne peut pas manger du lait et la viande parce que c'est pas sain, c'est faux, la preuve en est que l'interdit est aussi dans le fait de le cuire ensemble, et si tu manges de la viande et du lait qui sont pas cuits, c'est beaucoup moins grave, c'est pas permis, mais c'est beaucoup moins grave que si tu as mangé du lait, de la viande cuit, ou même que tu as cuit de la viande cuite sans le manger. D'accord? Madame Dupont, ta voisine te dit, monsieur Gates, je vous dérange pas, je dois chercher mes enfants et ils doivent arriver pour le repas, je serai absente, voici les clés de ma maison, ça vous dérange pas d'aller dans une demi-heure, allumer mon four, d'aller dans une lasagne. Et toi, tu vas faire le grand service, tu vas allumer le four. Dedans, il y a la lasagne. Qu'est-ce que c'est la lasagne? Viande et lait mélangés. Tu as transgressé un interdit grave de cuisson de lait et de viande. C'est pas pour toi, ça appartient à Madame Dupont, elle n'est pas juive. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? J'ai rendu service. Non, il y a certains actes au niveau physique qui ont une incidence métaphysique ou bonne ou mauvaise. Ça, c'est considéré comme une. Ça amène de la lumière métaphysique, ça enlève de la lumière métaphysique. Ça, ce qui est bon, c'est ce qu'on appelle mitzvah. Ça nous réunit à la source. Mitzvah signifie union. Et chet signifie rater. Tu rates parce que ton but, c'est de te brancher avec la source. Là, tu as raté. Tu as pris de l'énergie, tu as utilisé à mauvaise escient. Donc, dans la conversion, il est absolument nécessaire que ces trois conditions soient remplies. Si le candidat, il remplit ces trois conditions, alors il rentre non-juif, il sort du mikvé juif, à part entière. Il avait une âme, il reçoit cinq âmes. Il avait une âme non-juive, il reçoit cinq âmes juives. Nefesh, Nehuar, Neshama, Chaya, Yechida. C'est le pouvoir qu'ont Chazal, qu'a la Torah, de faire des actes physiques qui ont une incidence métaphysique. Maintenant, pourquoi c'est tellement dur de se convertir? Parce qu'on n'est pas convaincu que le candidat à la conversion, il est sincère. On n'a pas de scanner métaphysique qui va voir maintenant qu'est-ce qu'il pense dans le mikvé. Peut-être qu'il pense, maintenant ça va, je pourrais me marier avec mon petit ami, maintenant les gens vont m'appeler comme un juif, maintenant l'aide de l'État d'Israël parce que je suis considéré comme juif. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Il la joue bien, on sait que les chiffres disent 95% des conversions ne valent rien. Pourquoi ? Parce que le candidat est motivé par des motivations qui ne sont pas, par des motivations intéressées, qui ne sont pas les motivations authentiques, et quand il est dans le mikvé, il ne prend pas sur lui de façon sincère le jour de Rosh Hashanah, le jour des mitzvot. Si le lendemain du mikvé, ce type-là, il ne fait pas shabbat, ou il ne mange pas kasher, pour nous, c'est rétroactivement une preuve, comme quoi, lorsqu'il était dans le mikvé, il ne comptait pas le faire. C'est pas possible que dans le mikvé, il est sincère, je prends sur moi le jour des mitzvot, trois jours après, il allume la lumière shabbat. C'est incompatible. Ça prouve, ça, pour nous, ça nous prouve que dans le mikvé, il n'était pas sincère et sa conversion, elle vaut rien du tout. Voilà. C'est pour cela que les conversions libérales, vu que les libéraux ne sont pas regardants de la loi juive telle que le demande le Talmud, telle que demande la Torah, pour nous, leur conversion ne valent rien. Et tous les autres cas d'autres tribunaux religieux, qui vont, même non libéraux, qui vont faire des conversions, et nous verrons que le candidat à la conversion, après la conversion, si un mois après il arrête de faire des mitzvot, si un mois après, je peux dire, ok, un mois il a tenu, pour moi c'est suffisant, c'est déjà suffisant pour dire, il y a ici lieu de croire qu'il a été sincère. Après, il arrive que des décisions sincères s'émoussent avec le temps. Mais si directement en sortant du mikvé, après quelques jours déjà, il ne pratique plus, pour nous, ça sera une preuve rétroactive comme quoi il n'était pas sincère. Donc si on voit même quelqu'un qui est converti par un vrai Beddin, un vrai bon Beddin, mais on voit que quelques jours après il ne fait rien du tout, ça prouve que c'était rien du tout. Il y a aussi des Beddin que nous savons que les rabbins de ce Beddin ne sont pas cachers. Ils ne savent pas bien faire prendre à la personne le joug de prendre le royaume céleste, de faire la mitzvah. Ils font ça un peu à la va-vite. Il y a un peu aussi du business là-dedans. Ça arrive, hélas. Pour nous, dans le monde orthodoxe en tout cas, ces conversions sont considérées comme ou nulles ou ça fait que doute. Et dans ces cas-là, on demande une conversion, on devra faire une conversion pour sortir du doute. Une conversion, les choumra, on appelle ça une conversion pour être certain. Parce que celui qui est en doute s'il est converti ou pas, il est bloqué des deux côtés. Seulement avec une non-juif, il ne peut pas, parce que peut-être il est juif. Avec une juive, il ne peut pas non plus, parce que peut-être il est non-juif. Il est mal barré. Donc dans ce cas-là, on lui reconseille de faire une conversion orthodoxe valable. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. S'il y a d'autres compléments nécessaires, écrivez-moi sur le mail. Merci beaucoup et à bientôt.